Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Je suis en direct du STIC avec Pascal Andry, qui est chef directeur de la sécurité et sûreté globale du groupe Airbus. Bonjour Pascal.
Bonjour Nicolas. Alors, petit rectificatif d'entrée, je suis directeur de la sûreté et pas de la sécurité, très importante dans le domaine aéronautique. Je suis Chief Security Officer, donc ça veut dire directeur de la sûreté. Donc c'est-à-dire protéger Airbus, l'entreprise et tous ses biens contre des actes malveillants.
Ah oui, je pensais que tu faisais, en plus de la sécurité logicielle, je pensais que tu faisais aussi la sécurité physique, mais donc pas celle des avions, celle des sites et des bâtiments et des personnes.
Je fais de la sûreté physique.
D'accord.
C'est le même terme, en fait, à la protection des biens contre des actes malveillants, qu'ils soient intentionnels ou pas, on est dans la sûreté.
Donc, merci pour cette précision. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, bien que ce soit la deuxième fois que tu keynotes à STIC ?
Ah, la deuxième fois, certes, mais la première, c'était il y a 15 ans, donc il y a presque prescription.
D'après Hervé, la moyenne d'âge de nos auditeurs est assez élevée.
J'ai pas vu les statistiques. Donc effectivement, je suis rentré à l'aérospatial il y a 31 ans, donc 31 ans de carrière dans le milieu aéronautique, aérospatial et défense. Et d'ailleurs, à l'époque où je suis passé au STIC, c'était en 2009, pour être exact, à quelques jours près, c'était le 2 juin 2009, le lendemain du malheureux accident de l'Air France Rio-Paris, pour ceux qui s'en rappellent. Et à cette époque, j'étais en charge de la sûreté des avions au bureau d'études, poste que j'ai occupé pendant une quinzaine d'années, où j'ai eu la responsabilité de mettre en œuvre la conception, l'organisation de la sûreté de tous les avions, à la fois d'un point de vue cyber et à la fois d'un point de vue sûreté physique. Et puis, depuis 2017, j'ai cette fonction de Chief Security Officer, puisqu'après ce poste au bureau d'études directeur de la sûreté des avions, j'ai été nommé directeur de la sûreté de tous les produits du groupe, coordination de la sûreté de tous les produits du groupe. Donc les produits du groupe Airbus sont des avions, des hélicoptères, des satellites, des drones, des missiles, des lanceurs, voilà, des avions de chasse. Et puis pendant 5 ans, et puis ensuite directeur de la sûreté mondiale, Chief Security Officer, rattaché aujourd'hui au PDG du groupe.
Belle carrière.
Je ne sais pas.
Est-ce que tu peux nous résumer, on va dire, un ou deux points saillants de ta keynote qui dure une heure et que les auditeurs pourront retrouver en ligne sur le site du STIC ? Mais si tu devais mettre l'accent sur un ou deux points liés à la cybersécurité dans les avions ?
Ah, si tu veux que je précise cybersécurité. Alors, peut-être une chose en premier lieu, c'est l'objectif de ma keynote, c'était d'être un peu un eye-opener, d'ouvrir un peu les perspectives et donc de montrer ce que nous on appelle chez Airbus le continuum de sûreté, à savoir qu'aujourd'hui on ne se focalise plus sur la sûreté d'un équipement précis, mais pour faire la sûreté d'un avion comme la sûreté d'une entreprise, il faut avoir une vision générale du contexte géopolitique, du contexte d'influence, de l'environnement de l'entreprise ou de nos produits, et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Alors après, évidemment, si tu me demandes de rentrer dans des détails plus particuliers, je vais dire que la cyber a été une vraie menace sur l'avion pendant un certain temps. Il a fallu, depuis la 380, qu'on mette en place, et tu es bien placé pour le savoir parce que tu y as fortement contribué, mettre en place des systèmes de sûreté, de protection sur nos avions, et par conception d'ailleurs, hein, puisque depuis la 380, tous nos avions sont conçus avec de la security per design, et ça c'est important d'être dit. Aujourd'hui, dans le contexte géopolitique actuel, ce sont les tensions mondiales entre les différents États, entre différentes nations, qui nous posent des problèmes. Un exemple concret que j'ai voulu présenter aujourd'hui, c'est comment s'assurer de la véracité d'un signal GPS. On fait face à... On avait du jamming qu'on connaissait depuis quelque temps, ça veut dire du brouillage, on est plutôt dans l'interférence du signal. Et donc là, on sait s'en sortir parce qu'on perd le signal et donc on passe sur des centrales inertielles à bord de nos avions qui permettent de compenser et de complémenter. Mais là, maintenant, on passe à du spoofing. C'est beaucoup plus difficile à détecter puisqu'on est dans de la corruption cohérente de signal. Ça veut dire qu'un avion ne sait pas pas forcément. Il croit qu'il est à une position alors qu'il ne l'est pas. Il croit qu'il est à une certaine heure alors que c'est pas la bonne, puisque le GPS, le signal GPS nous informe à la fois sur la position de l'avion, mais aussi sur l'heure UTC.
Oui, c'est un problème qui est assez pervasif dans l'industrie, puisque même les bateaux brouillent ou sont brouillés pour masquer leur position, leur traversée de certaines zones, etc. Donc c'est vraiment un problème global. Et quand tu dis GPS, ça couvre aussi le GLONASS, le Galileo et tous les systèmes de positionnement.
Tout à fait. Alors, peut-être une précision importante. Parfois, on est une cible, c'est très rare, mais c'est souvent un effet collatéral. C'est-à-dire qu'au-dessus des zones, quand on vole, au-dessus des zones de théâtre ou de conflits militaires tels qu'on peut avoir en ce moment en Ukraine, autour de la Palestine par moment, tu vois, etc., on a cet impact de trouble du signal qui peut être, comme j'ai dit, soit du jamming, soit du spoofing, dont on est en grande majorité une cible collatérale, où on a un effet collatéral, parce que dans les théâtres militaires essentiellement, la volonté des acteurs qui utilisent le spoofing, c'est de diverger les trajectoires des drones ou des satellites qui les ciblent. Voilà, donc nous, on n'est qu'une victime collatérale de tout ça.
Il y a eu des présentations sur le jamming et la corruption cohérente de GPS à STIC les années passées. Et du coup, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ça? Est-ce qu'il y a des solutions techniques? Ou est-ce qu'on revient au pilote avec sa montre Omega qui fait des calculs de vitesse et de dérive?
Alors, je ne sais pas si la montre Omega pourrait compenser, mais aujourd'hui, il y a un équipement qui fonctionne très bien, qui est ce qu'on appelle la centrale inertielle. Centrale inertielle 6 axes, enfin 6 vecteurs. On a les 3 axes de tangage, de cap et de roulis classiques, plus pour chacun des axes, des accéléromètres. Donc du coup, je vais citer l'exemple du sous-marin que j'ai cité ce matin. Les sous-marins nucléaires, les SNLE, n'ont pas accès à un GPS quand ils partent en mission pendant 3 mois, voire plus sous l'eau. Ils n'ont pas accès à de signaux, il ne faut pas qu'ils se connectent à un quelconque réseau. Donc, ils sont complètement autonomes et utilisent des centrales inertielles. Les centrales inertielles n'étaient pas un moyen primaire de navigation parce que les premiers équipements dérivaient. Il fallait les recaler de temps en temps. Là, l'évolution des centrales inertielles, celles qui sont devenues des gyrolasers, puis ensuite maintenant des centrales hémisphériques, sont des centrales qui sont devenues très pointues, très précises et qui durent dans le temps. Donc peut-être qu'à l'avenir, on travaillera qu'avec des centrales inertielles, je ne sais pas. En tout cas, c'est un des moyens alternatifs. D'ailleurs, ça fait partie des trainings que l'on fait aujourd'hui aux pilotes de ligne pour leur dire, lorsque vous perdez un signal, et ils le savent, passez sur la centrale inertielle. Maintenant, là où il faut les éduquer, ce qui est le plus difficile, c'est quand il n'y a pas une perte de signal, c'est comment l'avion les informe que le signal reçu n'est plus le bon. Et c'est ça la grande difficulté.
Après, la différence entre les avions et les sous-marins, c'est que les avions peuvent voir les étoiles aussi.
Effectivement, on pourrait avoir à l'avenir des pointeurs d'étoiles qui nous permettraient de recalculer. On va peut-être ressortir les astrolabes de nos histoires de jeunesse, mais bon, qui sait, peut-être, et puis les étoiles, il faut les voir uniquement quand le ciel est bien bleu ou qu'on voit la très haute altitude au-dessus des nuages.
Oui, je pensais plutôt aux étoiles à neutrons que des senseurs peuvent détecter.
Tout à fait.
On ne va pas revenir à la table à cartes, je pense, de sitôt. Alors ça, c'est un sujet dont tu n'as pas parlé dans ta keynote, mais qui est quand même extrêmement intéressant. Comment tu fais pour te défendre de la menace informationnelle? Et éventuellement, est-ce que le niveau d'attaque, on va dire, cybernétique est important et a nécessité... est-ce que tu as vu passer des zéro day, en gros? Ou est-ce que c'est du niveau, je sature les boîtes mail en demandant à tout le monde d'envoyer des centaines de mails par jour, quoi?
Alors pour ceux que l'on a pu identifier, ce qui correspond uniquement à ce que j'ai vu, parce qu'il y a une grande partie des choses qu'on ne voit pas et qui sont beaucoup plus compliquées, on n'a pas eu de zero day sur ces activités-là, je ne pense pas que je sache. Par contre, oui, des attaques qui sont clairement liées du déni de service ou des attaques de fake news sur ces sujets, ça c'est du quotidien.
Mais du coup, est-ce que vous avez une cellule d'OSINT, par exemple? Est-ce que vous faites de la veille informationnelle? Comment ça se passe? C'est un sujet qui est assez peu traité dans les littératures, et les gens qui n'aiment pas trop dévoiler leur technique, parce que finalement, ça diminue l'efficacité des techniques qu'ils utilisent.
Alors tout à fait, on a une mini-cellule, je dis mini parce que je manque de ressources là-dessus, mais c'est clair que dans l'équipe de gouvernance d'Airbus, on a une petite équipe qui fait de l'OSINT, qui fait de la recherche d'intelligence ouverte, hein, puisque c'est bien la signification de l'OSINT. On cherche les sources ouvertes, on analyse les réseaux sociaux, on trouve des choses. D'ailleurs, on a anticipé des menaces dans des conférences ou dans des, pardon, dans des salons grâce à ça. Et puis ensuite, on a bien évidemment des relations très régulières avec les organismes gouvernementaux, que ce soit français, allemand, espagnol ou anglais, qui sont les quatre home country d'Airbus, auxquels j'ai accès assez régulièrement et qui nous informent de ce genre de menaces assez probantes et qui nous ont permis d'anticiper et de régler en amont un certain nombre d'incidents.
Quand tu dis que tu manques de moyens, est-ce que ça veut dire que Airbus recrute ?
Ça veut dire que non, pour le moment, on a recruté. C'est une bonne question, c'est pas piège, mais on a recruté. Aujourd'hui, j'ai malheureusement pas assez de postes ouverts pour pouvoir recruter, mais c'est une activité sur laquelle je vais me battre dans le futur pour ouvrir des postes, parce que on se rend compte que, y compris pour la gestion de crise que je gère aujourd'hui aussi, hein, puisque dans l'équipe de la corporate security d'Airbus dont j'ai le leadership, nous avons la gestion de crise, il est essentiel d'anticiper. Et l'anticipation ne se fait que par l'analyse de tout ça et la préparation, y compris à des menaces qu'on n'avait pas encore identifiées. C'est parfois le plus difficile, hein, d'anticiper une crise sur une menace non identifiée. Mais c'est grâce à tout ça qu'on identifie de plus en plus de menaces, y compris celles qu'on n'avait pas envisagées il y a quelques années encore.
Eh ben, écoute, Pascal, merci beaucoup. Ce n'est qu'un tout petit aperçu de ta keynote et je pense que la vidéo sera disponible sur le site du STIC d'ici quelques semaines. On te souhaite un bon vol de retour jusqu'à Toulouse et merci encore pour ton temps.
Merci Nicolas et merci de m'avoir accueilli pour la seconde fois.